Les mots des religions. On retrouve Haïm Korsia pour les mots de la Torah.
Bonjour Haïm Korsia.
Bonjour.
Voit-on dans la Torah apparaître le mot serviteur ?
Chaque verset.
Chaque verset ?
Chaque verset.
Bon, alors, et après le mot service, chaque verset aussi ?
Exactement, chaque verset pratiquement.
Et le mot servitude, qui n'est pas tout à fait pareil, mais enfin qui est quand même de
chaque
la même
verset.
Racine.
Chaque verset.
Bon, donc voilà trois mots sur lesquels vous allez nous éclairer et on va donc pouvoir dire tous les versets.
Exactement, non, parce que plus sérieusement, le mot servitude, on va commencer par le dernier que vous avez employé.
Voilà, servitude
le
alors.
Le mot servitude est à mettre en facteur commun à l'ensemble de la Bible parce qu'il est écrit combien de fois ? 50 fois. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, serviteur en Égypte. Ouais. Et la servitude d'Égypte a été la matrice formatrice du peuple d'Israël. L'endroit où il s'est nié, parce qu'il avait quasiment perdu tout lien avec Dieu, mais où il a réussi à se sauver, c'est-à-dire qu'il a réussi à garder l'essentiel qu'il a maintenu en tant que peuple et qui lui a permis de savoir à un moment reconstruire un chemin de confiance avec Dieu. Donc pour nous, la sortie d'Égypte, bien entendu l'esclavage en Égypte, est essentiel, ça a été l'endroit de la formation du peuple. Et puis le service, vous m'avez demandé le service et serviteur, je dis aussi à chaque verset, parce que qu'est-ce que Dieu demande de nous ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Bah, qu'on le serve. Et le Talmud dit une chose merveilleuse, servez Dieu dans la joie. Donc, et là, on a toute la force de votre question, permettez-moi de vous dire, parce que vous avez fait un chemin assez juste entre service, serviteur et servitude. Mais pour nous, l'idée du service de Dieu est un service qui doit être fait dans la joie.
Donc, pas dans l'impression d'être en servitude, justement.
Exactement. Mais en même temps, on ne doit pas oublier le fait que nous étions esclaves en Égypte. Parce que être joyeux quand tout va bien, c'est à la portée n'importe quel imbécile.
Oui.
Ça s'appelle un imbécile heureux. Il est heureux parce que tout va bien. Toutes les données sont nominales. Donc tout va bien, il est heureux. N'importe qui peut le faire. Mais être heureux quand on a des soucis, quand on a des problèmes avec ses enfants, quand on a des problèmes au travail, quand l'entreprise ne va pas bien, être heureux parce qu'on a décidé d'être heureux, être heureux alors qu'il y a des contraintes et que ces contraintes sont insupportables pour d'autres, mais nous on considère que Dieu nous a donné ce qu'il nous a donné et on est déjà heureux d'être là, on est heureux d'être en vie, heureux d'être à peu près en bonne santé. Bon, même si on n'est pas en bonne santé, ça pourrait être pire. Donc cette idée de vouloir faire le choix d'être heureux, de servir Dieu dans la joie, ça pourrait sembler être une antinomie, mais en réalité c'est le cœur même de ce que propose le judaïsme, d'où ma réflexion initiale. Ça se trouve dans chaque verset de la Bible, parce que chaque verset de la Bible est censé nous amener à produire une interrogation de notre part sur le monde et une interaction avec ce monde. Mais cette interaction, elle doit se faire dans la joie, parce que si elle se fait dans la crainte panique, ou pire, dans la peur absolue, à ce moment-là, on est inactif, on est impuissant face au monde. Et le monde, lui, nous travaillera toujours. Alors maintenant, permettez que je cite un prophète, mais un prophète relativement moderne. Je dis prophète parce que d'abord je l'aimais bien quand j'étais jeune. Maintenant aussi, remarquez, mais lui il a beaucoup vieilli. C'est Bob Dylan. Je dis prophète parce que même le pape Jean-Paul II l'avait fait chanter devant lui.
Voilà, oui, oui. Puis il chantait, c'est vrai. Une époque.
Une très belle époque. Et Bob Dylan, qui n'est pas dans la Bible, du moins pas encore, disait la chose suivante. Est-ce qu'on peut parler en anglais dans cette radio ?
Oui, on peut dans cette.
Ah,
oui.
Parfait. Il disait You have to serve somebody. Tu dois servir quelqu'un. Tu dois. Maybe the devil, maybe the Lord. Ce peut être le diable ou ce peut être Dieu.
Et donc, il faut faire un choix.
Oui, et j'ai compris quand j'ai entendu cette chanson, parce que j'étais plus jeune, c'est pour les puristes, je rappellerai que c'est le moment où il s'est converti au christianisme.
Je ne savais pas ça, oui.
Bob Dylan est juif, son origine c'est Bob Zimmerman.
Il s'est converti au christianisme. Ah, oui.
Au moment où il a fait un album extraordinaire qui s'appelait Slow Train Coming. Si un jour vous faites une émission sur les disques, je pourrais m'occuper de ça. Parce que c'était mon
voilà, je crois qu'on va trouver là un nouveau créneau.
Et c'est donc un album quasiment mystique. Oui. Il parle de la création du monde, de Adam. C'est vraiment un très très bel album. Et il y a une des chansons qui s'appelle où il dit ça. Tu dois servir quelqu'un. Et il trace le chemin de l'homme, finalement. Et après, j'ai réfléchi très longuement à cet engagement de cet homme, ce chanteur. Finalement, c'est vrai que notre place, elle est dans le monde. Et on doit se situer d'un côté ou de l'autre. On ne peut pas rester neutre dans le monde. De toute manière, on est asservi. Et un jour, j'ai vu dans les Maximes des Pères une phrase extraordinaire. Je me suis dit, c'est ça qu'a dû dire Bob Dylan. Il est écrit, si tu n'acceptes pas le joug de la Torah, le joug de Dieu, tu auras sur toi le joug des hommes.
Oui.
C'est-à-dire qu'un homme doit se placer en tant que serviteur des hommes et donc il est dans la servitude, ou serviteur de Dieu, et il est dans la joie. Mais on doit servir. Alors, Bob Dylan le dit en parlant de Dieu et du diable, mais être serviteur et servir, c'est une façon d'être engagé dans le monde. Finalement, puisque je parlais du pape tout à l'heure, le pape s'est défini une fois comme étant le serviteur des serviteurs. Tout homme est serviteur des serviteurs, puisque tous les hommes sont des serviteurs de Dieu, et que la vocation de chacun, c'est d'aider les autres, finalement, à ce que ce monde soit meilleur. Donc on est tous des serviteurs de Dieu. Et l'enjeu qui est le nôtre, c'est est-ce qu'on va accepter ce joug de la Torah dans la joie ? Parce que si on ne l'accepte pas, eh bien on aura le joug des hommes. Et pour la pratique, par exemple, soit on accepte les rituels que la Bible nous demande, peu importe la religion. Et si on les refuse, on sera écrasé par des rites qui seront externes, qui pourront être païens, qui pourront être de bienséance, de politesse, de ce que vous voulez. De toute manière, on devra servir quelqu'un.
Ce sont d'autres servitudes.
Voilà.
Donc ça veut dire que le joug est un allègement, en vérité. On devient léger, puisqu'on est en général joyeux et léger, l'un et l'autre.
Oui,
donc
on est...
le joug ne pèse pas.
Oui, c'est très juste ce que vous dites, parce qu'il y a Midrash, ce commentaire allégorique de la Bible, qui dit que les porteurs de l'Arche Sainte étaient en fait portés par la Torah. Puisque dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi.
Donc ça ne leur pesait pas, c'est ça.
C'est eux qui étaient portés par cette Torah, qui était esprit, bien sûr, mais qui était aussi matière. Et ce n'est pas eux qui l'a portée, c'est la Torah qui l'est portée. Ce qui veut dire, ce qui voudrait dire, là, avec ce que vous venez de me faire penser, que finalement, le joug de la Torah, accepter la volonté de Dieu sur nous, c'est une forme de libération, puisque ça nous rend imperméables à la volonté d'asservissement naturel que d'autres pourraient avoir à notre égard. Et c'est exactement ce que raconte une très belle histoire du Talmud, qui raconte qu'un bandit de grand chemin vient attaquer Rabbi Yochanan et traverse la rivière d'un bond pour aller le tuer et le voler. Et le Rabbi Yochanan lui parle et lui dit « Est-ce que c'est ça ta destinée ? Dans quoi ? Qu'est-ce que tu seras dans quelque temps ? De la poussière ? Et pour ça, tu veux me faire une violence ?» Il parle avec lui. Il le ramène à une véritable vision de la foi. Et l'autre, en quelque sorte, se convertit. C'est-à-dire, il revient à sa foi. Et cet autre, il s'appelle Rav Lakish, a voulu retraverser la rivière pour repartir. Il est tombé au milieu. Et les commentaires disent, oui, parce qu'il venait d'accepter le joug de la Torah. Et le joug de la Torah lui pesait. Et on doit choisir sa servitude. Il avait choisi d'être libre de la Torah. Et donc, mais il était prisonnier de ses pulsions. Quand il était capable de dominer ses pulsions grâce au joug de la Torah, eh bien, il devait en payer le prix. Voilà, peut-être la plus belle des servitudes qu'un homme doit pouvoir se construire, c'est être un serviteur de Dieu et un serviteur des hommes. Parce que si on ne sait pas comment servir Dieu, servons les hommes, ce sera une façon magnifique de servir Dieu.
C'est sur ces belles paroles que nous allons vous dire à une prochaine fois, Haïm Korsia.
À bientôt.
Merci.